Je suis né sous le signe des poissons et la mer est pour moi quelque chose de capital. Tout compte pour moi d'ailleurs, et la mer, et la montagne, et le désert que j'adore, sauf la ville que je n'aime pas du tout.
Il avait découvert Venise enfant avec son père artiste, il avait connu Rodin et Sarah Bernhardt. Giraudoux fut un temps son précepteur, il fréquentait Proust, il présentait Missia à Certes. Il avait embrassé la carrière avec un C majuscule, comme le cher Claudel ou Alexis Léger, qu'il rencontrait juste avant son départ pour la Chine. Il lui importait avant tout de découvrir à toute vitesse, semble-t-il, en dilettante, en amateur, en reporter parfois, mais c'est une question que je pourrais poser à Bernard Delvaille, des villes, des hommes et le son du jazz et du saxophone. Et il était une façon d'être, peut-être, plus qu'un art de voyager. L'idée de durer littérairement m'apparaissait négligeable, écrivit-il, plus que négligeable, obscène, la pudeur et l'élégance de l'époque exigeant des adieux sans larmes à une civilisation moribonde. Aujourd'hui donc, la voix de Paul Morand, vous l'entendrez dans cette émission, et puis aussi des extraits de Venise.
Contrairement aux gens du monde, ils ne parlaient pas pour ne rien dire. Je voyais admirer hier comme une étrangeté l'indépendance d'esprit d'un Léoto. Chacun de ces savoureux bonshommes de ma jeunesse, par le franc-parler, par la culture, par l'indépendance, était un Léoto. Il m'apparaissait comme très ordinaire, faute de point de repère. Aujourd'hui, je comprends qu'ils étaient plus que la culture. La civilisation. Ils n'avaient pas été Rimbaud. Il ne serait jamais Gide qu'il détestait, ni Giraudoux qu'il lui préférait, ni Proust. Homme très charmant, sans grande confiance en eux-mêmes, dandy amer et doux, vite amusé ou désespéré, moquant les invertis, comme ce héros de Thomas Mann, ce Herr von Aschenbach, troublé devant l'épaule nue qu'un jeune baigneur de Lido ose laisser voir hors du peignoir de bain, voire la mort à Venise. Les femmes les avaient fait souffrir. Pas de chance, ils avaient eu affaire aux dernières femmes qui feraient souffrir les hommes. Être fier, fin, jusqu'à se briser, avec des nerfs en verre filé de Murano. Réfugié dans la cité-refuge, bousculé par la vie, par un public grossier, pas encore à la fois averti et snob, par des éditeurs encore avares. Il n'aimait la richesse que chez les Rothschild où il dînait, mais pas pour elle-même.
J'aime la Venise d'aujourd'hui parce qu'on ne peut pas ne pas l'aimer, et puis parce que c'est un contraste extraordinaire entre une ville tout à fait immobile, comme peut l'être une toile de musée, et en même temps une ville qui fait sa part de la vie, n'est-ce pas, la vie qui continue. Vous levez, vous ouvrez votre fenêtre, vous regardez la Salute, et les bateaux n'ont pas encore commencé, il est 5 heures du matin, vous avez l'impression que vous êtes dans un tableau de Canaletto ou un tableau de Guardi. La première partie de ma vie, du moins jusqu'à la 20e année, ça a été non pas du tout une vie de contestation, mais au contraire d'admiration pour tout ce qui m'avait précédé. Et par conséquent, je m'accordais très bien cette espèce de lenteur, cette espèce de paresse. Ce n'est qu'ensuite que j'ai été plongé dans la vie et que j'ai vu autre chose, et même que j'ai vu le contraire.
C'était donc cette voix de Paul Morand que nous retrouverons pendant toute cette émission. Cette émission et ce portrait de Morand avec Bernard Delvaille en direct, avec aussi Jacques Laurent de l'Académie française qui a connu Morand.
Je crois qu'il savait qu'il ressemblait un peu à Bouddha et il cultivait cette ressemblance. Et il cultivait le calme de Bouddha. Il faisait quand même des gestes, mais c'était des gestes précis, nets. Sauf à la fin de sa vie où il y a eu des petites questions de surdité, alors il s'est mis à parler fort, sans ça il ne parlait pas fort, sa femme non plus. Et il émanait de lui un calme. Et comme en même temps il était très amateur de vitesse, le temps pour lui était un carburant dont il fallait être économe. Par exemple, si on était chez lui à Vevey, si on voulait reprendre le train, il vous calculait le trajet en voiture pour aller à la gare, 6 minutes, 1 minute pour atteindre la voiture, 1 minute pour aller de l'entrée de la gare au quai, ça faisait 7 minutes, et puis 1 minute de battement, ça faisait 8 minutes, et 1 minute pour les imprévisibles, ça faisait 9 minutes. Ça, d'ailleurs, à chaque fois que Il m'a imposé sa méthode, elle a réussi. Mais elle était pour quelqu'un qui n'a pas la passion d'économiser son temps, comme moi, j'aurais mieux aimé arriver avec 5 minutes d'avance.
Il n'était pas très généreux pour les imprévisibles.
Non, il était très avare des imprévisibles. Et ça se sent aussi dans sa littérature. Je ne parle pas seulement des livres comme L'homme pressé, qui est un livre sur, à la fois sur l'impatience et puis sur le tour qu'avait pris la civilisation occidentale à l'époque entre les deux guerres. Et qui finalement se démodait un peu à la fin de la vie de Morand. Puisqu'au contraire, ce qu'on recherchait plutôt, c'était à perdre son temps et à ralentir plutôt qu'à accélérer. On avait suffisamment accéléré comme ça. Je crois d'ailleurs qu'il a eu par moments la notion d'être dépaysé, de ne plus être dans l'époque à laquelle il était attaché, qui était son époque. De même qu'il n'avait perdu son Europe. Il ne faut pas oublier qu'il avait très bien connu l'Europe de l'avant-guerre. Et d'autant mieux connu que son père était un homme à la mode, qu'il recevait beaucoup, qu'il recevait des hôtes cosmopolites. Sauf qu'il n'a jamais eu une notion très française de la civilisation, mais toujours une notion européenne et une notion aristocratique, mondaine. Et il a certainement été très atteint par tous les antagonismes qui sont nés en Europe pendant la guerre de 14 et qui ont subsisté ensuite. Les grandes familles internationales qu'il avait connues, ou notamment les familles nobles, où il y avait un cousin qui était polonais mais dans la Pologne russe, un autre polonais mais dans la Pologne allemande, un troisième allemand, un quatrième autrichien, un cinquième français, pour lui c'était ça l'Europe. Alors quand il y a eu l'Europe des antagonismes pendant la guerre et l'entre-deux-guerres, il s'est senti un petit peu mal à l'aise. En même temps, il était aussi un amateur de luxe. Et il avait besoin de toutes les subtilités d'une société raffinée, sans y prêter d'ailleurs attention. Mais enfin, sans sembler y prêter attention. Dans un déjeuner chez un de nos amis, il y avait un chien, le chien de notre hôte. Et à la fin du déjeuner, Morand a pris une pomme et a demandé la permission d'offrir cette pomme au chien. Et son hôte a dit, oh non, non, je ne lui donnais pas ça, il a horreur des pommes. Morand lui a dit, ça m'étonnerait parce que tous les chiens de cette race adorent les pommes. Puis il s'est mis à peler la pomme. Alors, son hôte a été très surpris, il lui a dit, ah, parce que vous l'appelez la pomme. Il lui a dit, oui, bien sûr, un chien de cette race ne mange jamais une pomme non pelée. Et puis après avoir donné la pomme, les quartiers de pomme au chien qu'il a dévoré, très heureux, il a montré les pelures et il a dit, ça, vous les donnerez à vos cygnes qui préfèrent la pelure à la chair de la pomme. Alors ça, c'est toutes ces, je n'appellerai pas ça des recettes, c'est toutes ces connaissances de haute civilisation qu'il avait et qui ont disparu avec lui. Donc à la fois, il était habité par la nostalgie d'une Europe défunte et en même temps, il courait avec les innovations, le progrès, la dernière trouvaille, et l'une d'elles étant la vitesse, c'est pourquoi il était séduit par l'avion et par la possibilité de courir d'un continent à l'autre à toute vitesse. Et je me rappelle qu'il m'avait dit qu'il fallait probablement mieux connaître une ville en 24 heures qu'en 24 ans. Il a été enthousiasmé donc à la fois jusqu'au bout par les trouvailles que pouvaient donner à la sensibilité, à l'émotion, les progrès mécaniques, et en même temps par cette nostalgie qui lui a fait écrire plusieurs livres, d'ailleurs sur les Habsbourg, cette nostalgie qu'il avait de l'ancienne Europe. Thank you.
J'ai été plus loin que les villes. Au-delà de leurs cimetières, des gazomètres, obscurs cirques, des fortifications à gazon noir, et de cette gangrène des zones réservées. Plus loin coulent les deux Decauville coloniaux, Maine, qui tissent eux-mêmes leurs rails en avancée. J'ai gagné un matériel au poker, sous les boguets. J'avais une propriété de famille sur la route de Tours, à Montbazon. Je l'ai perdue sur une séquence incroyable dans l'électrichbahn de Fort Ruprecht. À Tanger, j'eus une vieille locomotive de grande ceinture, tout en or. Le gouverneur du Tabor m'invita à dîner. Il aurait bien voulu faire taire son prisonnier qui était en cage dans un wagon poste au milieu du marché et qui se plaignait d'être la nuit mis à mal par les sous-officiers. À l'inauguration de la nouvelle ligne de Minas Gerais, il y avait des drapeaux français et brésiliens sur la machine. On but tant de champagne que le train tomba du pont. Un matin, à Vannes, Arménie, au fourgon, j'ai volé à un russe sa pelisse en putois, et qui en profita sinon ses petites tétines, qui dataient du temps de l'occupation byzantine. J'ai vu aussi un mécanicien bulgare ne vouloir quitter la gare que contre 6 douzaines de boîtes d'allumettes. C'était bien avant le temps où le roi Ferdinand se cacher dans les WC de l'Orient Express pour traverser la Seine.
Prodigieux, il est arrivé à la fin du bal pour tout, pour la fin du 19e siècle, pour la fin des culottes rouges, pour la fin des cultures secondaires avec grec et latin, etc., etc. Toute ma vie, je suis arrivé au moment où ça finissait.
Bernard Delvaille, c'était donc mourant, regrettant d'arriver, mais regrettant, on ne sait trop, parce qu'en définitive, il avait sans doute beaucoup le sens de l'humour, mais soulignant qu'il arrivait toujours quand on éteignait tout. Il arrivait pour la fin du bal, la dernière valse, le dernier tourbillon sur le parquet.
Oui, j'adore cette phrase de Morand, j'arrive toujours quand on éteint. C'est le propre un peu des hommes pressés d'arriver quand on éteint, parce qu'ils ont pris du retard et ils arrivent au dernier moment, et parfois c'est un peu trop tard. Et je me demande si dans le cas de Morand, il n'y a pas là, et dans toute son œuvre, dans toute sa personne, une sorte de pessimisme foncier, du début à la fin, une sorte d'amertume d'avoir raté un peu tout, d'avoir participé à tout, mais d'avoir participé à des choses qui étaient de telles fêtes, que ce soit le salon de Madeleine le Maire, que ce soit Proust à Cabourg, que ce soit l'Angleterre de juste avant 1914, n'est-ce pas, cette Angleterre dont Larbeau aussi a parlé du temps joyeux de la belle Angleterre, et Morand et Larbeau ont des points extrêmement communs, et que ce soit aussi cette sorte de folie berlinoise des années 20. C'est-à-dire, Morand a vu les derniers orchestres tziganes sur l'Europe, les derniers moments où on pouvait, sur un Paris, et c'est le thème d'un roman comme Flèche d'Orient, où on pouvait, sur un Paris, s'en aller vers la Russie pour acheter du caviar et revenir après rue de la Paix. Mais parfois, le personnage qui allait acheter du caviar pour la Russie, une fois traversé la frontière de Roumanie et de Russie, il restait en Russie parce qu'il y avait une sorte d'âme slave qui prédominait et qui l'emportait sur tout ça. Il y a toujours eu ce côté extrêmement pessimiste. Et alors on le retrouvera, ce côté du temps de la Société des Nations. Enfin, quand il comprend très bien qu'à Genève, la Société des Nations essaie de temporiser, essaie de pacifier l'Europe, et que de l'autre côté de la frontière, en Allemagne, on essaie au contraire d'accélérer l'effort de guerre. Et il dit à ce moment-là, en y mêlant une dialectique wagnérienne aussi, il dit « il faut savoir ceux qui préfèrent l'eau calme des lacs à l'eau fraîche des torrents », c'est-à-dire l'endormissement d'une Europe à une autre Europe qui allait naître et qui allait évidemment amener la catastrophe.
Alors, Bernard Delvaille, est-ce qu'il n'est pas un peu faux, à la limite, lorsqu'on parle de Paul Morand, de le présenter comme un écrivain du voyage? J'ai l'impression qu'il, ce dont il parle dans cette œuvre qui est très multiple, très diverse, c'est beaucoup plus d'un art de vivre que d'un art de voyager.
Il parle tout de même d'un art de voyager. Il parle beaucoup moins d'un art de vivre que Larbeau le faisait. Larbeau, lui, parce qu'il faut les comparer assez souvent. Morand m'a dit un jour, ce que j'aurais aimé faire, c'est l'œuvre de Larbeau. Et Larbeau écrit que ce qu'il aurait souhaité faire, c'était l'œuvre de Morand. Mais enfin, ça, ce sont des politesses qu'on se fait entre écrivains illustres. Larbeau avait beaucoup plus l'art de vivre. Quand Larbeau voyageait, il s'installait dans une ville, il prenait un appartement, il fréquentait les bibliothèques, il fréquentait les jardins publics, il rencontrait les petites filles sur les bancs des jardins publics, il menait la vie d'un vieux célibataire dans une grande ville européenne.
Et Morand, évidemment, dit, va plus vite. Il dit il vaut mieux 24 heures que 24
oui,
ans.
Oui, Larbeau préférait 24 ans. Mais tout de même, Morand est quand même l'un des derniers qui voyage. Il ne se déplace pas, il voyage. Et alors, il a cette immense supériorité sur nombre d'autres voyageurs, peut-être pas sur Stendhal, peut-être pas sur certains écrivains du 18e et du début du 19e qu'il admirait, comme le Prince de Ligne, comme Stendhal, comme Chamfort. Il aimait ses écritures rapides, ses écritures photographiques, comme ça. Morand avait le sens de la photographie. C'est pour ça, 24 heures, en 24 heures, il avait compris une ville, parce qu'il en avait saisi toute l'histoire, il savait comment ça fonctionnait, il avait une rapidité d'esprit. C'était pas un homme pressé, malgré le titre de son livre. C'était un homme rapide, ce qui n'est pas la même chose. Il n'était pas pressé d'arriver quelque part, mais personnellement, psychologiquement, foncièrement, mentalement, il allait vite. Il enregistrait à toute vitesse et avec un prodigieux don de la langue, il faisait de ses photographies des phrases qui sont tout à fait prodigieuses, qui sont tout à fait étonnantes dans leur raccourci, dans leur côté elliptique, dans leur rapidité. Je ne dis pas dans leur vitesse.
Est-ce que l'on pourrait dire justement qu'il pourrait avoir ou qu'il aurait pu avoir un regard de reporter? Je pense par exemple à l'une des nouvelles dans Ouvert la nuit, la nouvelle sur les 6 jours cyclistes.
Oui.
Quand on la lit, on a l'impression d'un reportage sportif très légèrement romancé, mais il y a là une observation très précise des attitudes des sportifs, par exemple.
Tout à fait. Bon, c'était l'époque où le sport débutait, où commençait, on allait le Veldiv, n'est-ce pas, et les 6 jours étaient aussi fréquentés que Medrano ou que le Fouquet's. Enfin, c'était tout une sorte de snobisme parisien où le sport, le jazz, la peinture cubiste, enfin tout ça se mélangeait, le surréalisme, le bœuf sur le toit, enfin tout ça. Mais il a été grand reporter tout de même aussi dans des livres de voyage qui s'appellent, qu'on connaît moins, qui s'appellent Air Indien, qui s'appellent Hiver Caraïbes, et dans ces 3 grands portraits de ville que sont Londres, New York et Bucarest. Et même dans les romans qui s'appellent Bouddha vivant, Bouddha vivant c'est l'Asie, Champion du monde c'est l'Amérique, Magie noire c'est l'Afrique, et L'Europe galante c'est l'Europe, c'est aussi un prodigieux reporter, mais c'est mieux qu'un journaliste. C'est un écrivain reporter, c'est Sandrart, c'est Kessel.
Je vous propose de réécouter encore la voix de Paul Morand qui parle de l'art de la nouvelle.
J'aime beaucoup la nouvelle parce que ça correspond à mon tempérament et est une chose à la fois de concision, de rapidité, de violence et avec très peu de préparation et d'exposition. J'ai évolué vers la longue nouvelle parce que je trouve que ce n'est pas un genre hybride, mais c'est un genre qui convient peut-être au ralentissement de ma vie à mon âge, mais qui... Giraudoux me disait un jour, la pièce idéale, c'est la pièce en un acte, vois-tu, en deux actes. La coupe en deux actes, c'est merveilleux. Eh bien, en effet, avec le cinéma, maintenant, on n'a plus besoin de l'acte d'exposition. Et de même, l'exposition des premiers chapitres de romans, les gens ont compris tout de suite, ce n'est plus la peine.
On a une morale d'écharpe, ok.
Bernard Delvaille, donc les nouvelles de Morand, et aussi des poèmes, parce que nous allons en entendre certains, et nous en avons déjà entendu un dans cette émission, Signal d'alarme, les poèmes, qui sont où on le retrouve, cet art de l'image qu'il a fait.
Oui, les poèmes de Morand, moi, m'ont toujours beaucoup intéressé, parce que c'était d'une part une époque où ils n'étaient pas réédités depuis les années 20, ils sont peu nombreux, n'est-ce pas? Il y a 2 volumes, il y a Lampes à arc et Feuilles de température, qui sont de 1919-1920, qui sont ces 2 premiers livres. Et il y a USA, qui s'appelle Album lyrique, Photographie lyrique exactement. Et ce sont des poèmes sur les États-Unis. Et puis alors il y a après dans un livre qui s'appelle Papier d'identité, qui est un recueil d'articles sur Saint-Jean de Perse, sur Marie-Laurencin, sur la peinture, tout ça. 5 poèmes que je trouve parmi les chefs-d'œuvre peut-être de Morand. Mais là aussi, ce sont des poèmes qui sont de véritables reportages, de véritables... C'est très cruel, hein, parce que ce désenchantement qui marque Morand, malgré tout, ce désenchantement, évidemment, s'accompagne d'une certaine cruauté, enfin. Et c'est la cruauté de celui qui se tire un coup de revolver pour avoir perdu au casino, de Saint-Sébastien. Quand il parle dans un poème sur Saint-Sébastien, des croupiers belges, c'est pour pourquoi les croupiers belges. En effet, les croupiers étaient d'origine belge à Saint-Sébastien en 1922 ou en 1920. Tout d'un coup, il avait l'art de saisir n'importe quoi avec un regard extrêmement rapide, extrêmement elliptique, et d'en faire tout un coup de... Et regardez Lewis et Irène, par exemple, qui est un merveilleux roman. Quand Paris, c'est Paris au mois de juillet, je crois, c'est la fin de la saison parisienne, la season, comme le disaient les Anglais. Paris, il fait chaud, l'herbe est rase, l'herbe est brûlée, le bois de Boulogne est absolument désert, les feuilles des marronniers sont sèches, et le prix, je ne sais quel prix de hippique, enfin, a été gagné par un grec. Et on est en pleine chaleur méditerranéenne tout d'un coup. Enfin, en cinq lignes, en cinq phrases, c'est l'étouffement de la canicule.
Mais de la Méditerranée brûle d'ailleurs tout ce roman et tous ces rapports entre les Méditerranées.
Il la connaissait surtout par sa femme. Enfin.
Trois heures et quart. L'heure stupide est là. Au travers des dalles en pâte de verre, le jazz band me chatouille les pieds. Saint-Sébastien tend son corps basque aux flèches des vieilles joueuses, avides d'un numéro plein. Mais qui nous rendrait 35 fois notre mise, sinon les saints? La bille se déroule comme une bande de mitrailleuses, chantant cette fausse berceuse qui est le hasard. La ville est inscrite dans le cercle de la baie et dans le cercle du casino, comme une corne où l'abondance s'écoule par le petit bout. Les poissons de mer viennent manger à la porte des égouts. Au fond des coquillages sonores, on entend la voix des croupiers belges. Les villas sont serrées au bord de la promenade, comme des incisives. Tandis qu'au-dessus, comme de noirs molaires déchaussés, les couvents jésuites mastiquent un paysage de montagne.
C'était donc Saint-Sébastien. Bernard Delvaille, votre portrait en pied, en chair et en os de l'homme Morand, comment pourrez-vous le faire puisque vous l'avez donc rencontré?
Oui, d'un homme très extrêmement étonnant. Je me souviens, il habitait avenue Charles Floquet, près de la Tour Eiffel, dont il dit qu'il est né en même temps qu'elle, puisqu'il est né en 88, elle aussi.
Il dit, dans une interview que j'avais entendue dans les archives de l'INA, qu'elle était la plus belle parure de cheminée de son enfance.
Mais oui, il avait le sens de ses vastes appartements, et Dieu sait que celui de l'avenue Charles Floquet était une sorte de cathédrale, marron, absolument horrible, remplie de statues chinoises et hindoues avec des armoires et des catafalques. C'était vraiment une sorte de catafalque. C'était prodigieux, c'était ahurissant. Une hauteur de plafond extravagante, et tout ça donnait sur le Champ de Mars. Et il y avait un petit escalier en colimaçon qui conduisait au bureau de Morand. Et je suis allé plusieurs fois dans ce bureau, qui était là une sorte de pied-à-terre, n'est-ce pas, où les livres étaient disposés sans aucun soin, sans vraiment, il n'avait absolument pas le sens de la bibliophilie, et il voulait absolument qu'on fasse dans une collection, chez Pierre Séguer, c'est un René Vivien. Et il avait toutes les œuvres de René Vivien, qui lui venaient par Madame Marthe Laovary, qui avait été la petite amie de Nathalie Clifford Barnett, tout ça était roumain, enfin tout ça était... parfaitement, on en voyait très bien la continuité. Et il m'a donné toutes les œuvres de René Vivien, dans les exemplaires absolument déchirés, absolument extravagants. Il m'a dit, il faut absolument que vous fassiez René Vivien, c'est très important, c'est très intéressant, etc. Et après, nous avions dîné, je me souviens, au Meurice avec cette madame Laovary, puis le livre ne s'est pas fait, parce que je crois que cette dame est morte. Et en même temps, il me parlait, c'était un homme extrêmement cultivé, qui connaissait à fond la fin du 19e siècle, de par son père, Eugène Morand, qui était un homme de théâtre qui avait écrit des opéras avec Chabrier, avec d'autres compositeurs de l'époque. Et Morand, lui, était un amateur quand même des périodes extrêmement peu connues de la littérature française. Il adorait le début du XVIIe, c'est-à-dire les petits écrivains du début du XVIIe, c'est-à-dire ni Malherbe, ni Racine, ni Corneille, mais Théophile de Viau, mais Saint-Amand, mais Ménard, mais Racan, mais Scudéry, Voiture, il adorait tout ça. Et il avait alors aussi une connaissance parfaite de la littérature élisabéthaine, de la littérature anglaise du XVIe. Il connaissait à fond, d'ailleurs le premier texte qu'il ait écrit, je crois, c'était sur les masques dans la dramaturgie élisabéthaine. Et ça, ça venait de son éducation à Oxford. Et à part ça, on voyait tout, quand j'allais à avenue Charles Floquet, il y avait tout de même cet homme, avait à l'époque, moi j'ai dû le rencontrer dans les années 66, par là, il avait 66 et 12, il avait 78 ans. Et il y avait devant, sur le trottoir, une Porsche rouge, immatriculée dans le canton de Vaud. Et c'était la voiture que Morand maniait comme il aurait manié une bicyclette dans son enfance. Enfin. Et alors sa femme était une femme bon, sur laquelle on peut dire des choses diverses, mais il avait un immense respect pour elle. Et je me souviens que d'être allé les voir, je crois que c'est la dernière fois peut-être, Hélène Morand était souffrante, elle était allongée sur une sorte de méridienne, et lui était aux petits soins pour elle. Cet immense appartement obscur et sombre et marron, marronasse vraiment, d'Annie Charles Floquet, était rempli de fleurs blanches. Et Hélène Morand, qui était plus âgée que lui, qui devait peut-être avoir à ce moment-là 85 ou 88 ans, m'a fait un rapprochement très curieux entre Giraudoux, que Morand avait très bien connu avant 14, il avait été son...
Oui, Morand avait 16 ans et Giraudoux devait en avoir 22 ou 23.
À Sciences Po, oui. Et elle me faisait une sorte de corrélation entre Jean-Paul Richter, l'écrivain allemand, et Giraudoux. Elle voyait chez eux deux incarnations du fantastique romantique allemand. C'était très étonnant de la part de cette vieille femme qui parlait comme ça et de cet homme qui la couvait comme s'il était son fils.
Il écrivait encore des poèmes sur ses vieux jours.
Non. Il m'avait passé, pour l'édition des poètes d'aujourd'hui, il m'avait passé 5 derniers poèmes qui sont très mauvais. Il n'écrivait plus de poèmes, non. Je crois que ces derniers poèmes doivent dater des années 30.
Bain public. À maintenant, dans l'heure, garni de fausses salades. À Osgore, dans les crèmes de phosphore. À Stanberg, où l'on visite le vendredi les machines à faire les vagues. À Woolwich, d'où on sort avec un collier de suie dans la mer morte où l'on ne peut plonger. Au Lido, où la marquise se baignait nue. À Key West, parmi les éclairs des dorades. À Royan, où les mères attendent avec un peignoir et le vin Mariani. À Basse, avec une ombrelle et un chapeau. À Caen et dans les roseaux, quand passe l'adjudant. À La Havane, en plein punch sous la lune. À Dieppe, dans l'écume de la malle anglaise. À Budapest, parmi les cadavres de Juifs. À Hendaye, jusqu'à l'eau plus froide de la Bidassoa. À Schwabing, où Giraudoux nage sous l'eau. À Tamaris, la mer vacille sous les tirs d'escadre. À Deva, flotte des scapulaires perdus par les scaphandriers. À Hong Kong, nous fîmes le tour des cuirassés assis sur leur naft. Dans le Bosphore, parmi les tranches de pastèque. Quel courant! À Francesbad, dans les boues radioactives. À Windermere, c'est fade et l'on a pied dans cette élégie. À Palma de Majorque, où le corps sous l'eau est bleu. À Therapia, devant les réservoirs de la Standard Oil, sur lesquels sont peintes des forêts trompeuses. À Chimsé, dans l'encre glacée. À Algésiras, où la mer roule des dieux phéniciens. À Barcelone, dans l'ombre des chantiers vulcans. Au Falaire, sous les excentriques pailletés qui dansent sur la corde. On voit l'acropole à travers les mâts métalliques de la Vérof. À Tanger, où les plongeurs ont le dessous des pieds blancs. À Tremezzo, dans l'eau sonnante. À Laïs, où il faut vraiment en avoir envie. À Ségovie, dans le torrent où sèche le linge. À Paris, où cela s'appelle de l'hydrothérapie.
Thank you.
l'heure, Bernard Delvaille, vous compariez Paul Morand à Valérie Larbaud, vous avez mentionné aussi Blaise Cendrars. Il était collègue, en quelque sorte, de deux autres diplomates éminents et écrivains éminents, Paul Claudel et Saint-Jean de Perse, qui avaient choisi d'ailleurs à ce moment-là beaucoup plus la carrière que l'art d'écrire. Est-ce que vous pourriez continuer est-ce qu'on peut continuer la comparaison de ce diplomate Paul Morand, qui choisit d'ailleurs, qui en fait n'exerce pas
non,
vraiment,
on n'a pas l'impression qu'il se met en disponibilité assez vite. Après son poste à Bangkok, il se met en disponibilité et il ne retrouvera le Quai d'Orsay que dans des conditions historiques et politiques qu'on lui a, à juste titre d'ailleurs, beaucoup reprochées. Où il sera ambassadeur de France à Bucarest pendant la guerre, et puis ensuite ambassadeur de France à Berne pendant la même période.
Ce qui lui a valu d'être rayé des cadres et
d'être exilé, ce qui lui a valu le refus du général de Gaulle qu'il soit reçu à l'Académie française, puis tout ça se calmait à la longue. Mais Claudel avait quand même 20 ans de plus que lui, c'était pas du tout la même chose. Et bien que Claudel ait été pour Morand certainement un maître et un... Il avait une admiration pour Claudel. Saint-Jean de Perse était autre chose parce que c'était son compagnon aussi de sciences politiques. Ils étaient nés à un an près, Perse en 87 et Morand en 88. Et ils s'étaient connus très tôt. Et je me souviens que Morand me disait que Saint-Jean de Perse avait raté le passage d'un examen en droit parce qu'il naviguait sur un bateau, comme il en avait l'habitude et comme il a toujours eu l'habitude, et que son manuel de droit constitutionnel ou de droit international public avait été emporté par une lame, ce qui fait qu'il n'avait pas pu réviser, qu'il avait été collé cette année-là au concours. Et alors surtout, ce qui est intéressant dans les rapports, c'est le dernier dîner. C'est dans le journal d'un attaché d'ambassade que Morand raconte ça. Le dernier dîner qui doit dater, je crois, de 1916, où il y a un grand dîner chez Larue, qui après est devenu Queenie, mais qui était un salon de thé, brasserie, restaurant, qui était à l'angle de la place de la Madeleine et de la rue Royale. Enfin, tout ça a disparu. C'est un endroit que Proust fréquentait beaucoup et où Saint-Jean de Perse a annoncé qu'il partait en poste pour la Chine, je crois. Et ça a été vraiment un grand dîner d'adieu. Et c'est d'ailleurs chez Weber ou chez Larue que Morand a connu sa future femme par l'intermédiaire de Proust. Il y a parmi les poèmes de Morand l'un des plus célèbres qui est l'ode à Marcel Proust, n'est-ce pas ?
Où il parle des gants de Philocèle de Marcel Proust.
Il parle des gants de Philocèle et il dit aussi « Proust, à quel raout alliez-vous donc la nuit pour en revenir au matin avec les yeux si lourds et si battus ?» Ça, c'est un très beau poème.
De même que dans le journal de Natacha l'ambassade, il est un peu grinçant, non pas grinçant, mais il a l'air un peu moqueur vis-à-vis de Proust. Et il dit beaucoup qu'il avait les mains serrées dans des gants trop petits, d'une taille pour lui, qui lui faisaient des petites mains raides.
Oui.
Et il a cette tare aussi d'être un peu cinglant vis-à-vis de ses contemporains, même
oui.
Et surtout peut-être
ah,
les
admire. C'est le reporter, ça. Et puis il nous montre surtout Proust se passant la main comme ça sur les ailes du nez et mangeant des nouilles à 3h du matin, n'est-ce pas ? Ça, évidemment. Non, mais il faut se dire une chose, c'est que Proust avait fermé des fenêtres au sens propre et au sens figuré, que Morand n'a eu qu'une envie, les ouvrir. C'était le contraire, n'est-ce pas ? Je ne sais pas qui, je crois qu'un critique a dit que Morand avait ouvert les fenêtres de la chambre où Proust était mort. Et ça, je crois que ça résume bien.
Allemands nus qui chantent un poème en vers de couleur sur la résistance passive dans le théâtre de Taormina. Poème coups humains.
Coups humains comme une photo instantanée. Bernard Delvaille, vous êtes en train d'ailleurs de feuilleter le recueil que vous avez consacré dans la collection Poète d'aujourd'hui à Paul Morand, à la recherche de l'un des poèmes que vous aimez. Mais ça, j'aimerais quand même vous poser une question, parce que Paul Morand, qui est donc allé aussi en Extrême-Orient, en a ramené, si on peut dire ramené, un petit roman, une très longue nouvelle, qui vient d'être réédité tout récemment chez Grasset, dans la petite collection rouge, Bouddha vivant, qui est en fait non pas un roman sur l'Extrême-Orient, mais le regard d'un prince d'Extrême-Orient sur l'Angleterre et sur l'Europe.
Oui, parce que c'est un prince qui habite Saint-Cloud.
Et à aucun moment il ne veut, on dirait qu'il refuse l'exotisme, à tout prix, Morand.
Ben là, il se met dans la peau, en effet, de ce prince en exil qui fait ses études à Oxford et qui habite Saint-Cloud et qui a une autre vision de l'Europe. Mais quand Morand écrit Bouddha vivant, il dit qu'il en a eu des yeux bridés après l'écriture de ce livre. Quand il a terminé Magie noire, il dit que ce teint un peu marron, un peu noir, lui donne un côté portrait de Dorian Gray. Enfin, il donnait vraiment l'impression physiquement d'avoir sur son visage tous les paysages qu'il avait connus. Mais on voyait quand même que c'était un vieux Parisien de la rue Marbeuf.
Et ça s'entend d'ailleurs.
Ça s'entend, et ça. Mais oui, c'était une époque, et c'était des personnages de grande civilisation. Il y a eu quelqu'un dont on n'a pas parlé, qui était quand même l'un de ses amis très proches, c'était Cocteau. Et Darius Milhaud, et Ravel. Il a écrit, la dernière œuvre de Ravel, qui sont les trois chansons à Dulcinée de Don Quichotte, qui était écrite pour Chaliapine, qui devait faire un film de ces trois chansons, c'est sur des paroles de Morand que Ravel les écrit. Enfin, ça, c'est 1932, c'est la dernière œuvre de Ravel. Elle est écrite sur des poèmes de Morand, qui ne sont pas très bons, mais enfin, c'est autre chose.
Bernard Delvaille, vous avez retrouvé le poème?
Oui, et bon, il y a un poème que j'adore, mais il est très long, mais j'aime bien celui-ci parce qu'il est aussi plein d'humour grinçant et de causticité. Il s'appelle Baiser. Il est dans USA, dont je parlais tout à l'heure, ce petit livre de photographie lyrique sur les États-Unis. Un baiser abrège la vie humaine de 3 minutes. Affirme le département de psychologie de Western State College, Gunnison, Colorado. Le baiser provoque de telles palpitations que le cœur travaille en 4 secondes plus qu'en 3 minutes. Les statistiques prouvent que 480 baisers raccourcissent la vie d'un jour, que 2360 baisers vous privent d'une semaine et que 148 071 baisers, c'est tout simplement une année de perdu.
On en retrouve.
C'était pas un sentimental, Morand. C'était quelqu'un de direct, de rapide, de nerveux, qui allait droit à la vision des choses, à ce que son œil de photographe pouvait encaisser. Enfin, je me suis dit, je pense qu'il avait, en effet, comme je l'ai dit tout à l'heure, vis-à-vis d'Hélène Morand, un amour filial.
Là, vous avez tiré ce poème très incisif d'USA. Il a donc ramené une série d'images traitées de façon différente, nouvelles ou poèmes des États-Unis. Mais en définitive, on a quand même l'impression qu'il revient toujours à l'Angleterre, que c'est le pays qui n'y reviendrait pas.
L'Arbo est toujours revenu à l'Angleterre, Morand aussi, parce qu'il y avait en Angleterre ce mélange Il y a toujours en Angleterre ce mélange de modernité et ce mélange de tradition, n'est-ce pas ? C'est l'ordre et l'aventure dont parle Apollinaire, enfin. Et il est certain que Oxford, Cambridge ou Londres, c'est quand même plus civilisé que Broadway.
Conduit au nouveau cirque, Cakewalk. Un couple de nègres américains endimanchés, tenant à la main le bouquet de l'Olympia, cabré, font irruption dans le 20e siècle. 1914. Septembre, 9h du soir. Les tirailleurs sénégalais descendent le boulevard Saint-Michel, direction la Marne. 1916. Septembre. Toute une soirée, un homme à l'accent créole, à la voix sourde comme celle d'un récitant de Conrad, me révèle la poésie des Antilles, la noblesse du Rhum. C'est Saint Léger, Léger. 1919, Darius Milhaud arrive du Brésil. Il décrit Bahia, la Rhum noire, me joue de ses sambas nègres, qui serviront bientôt à la musique de son Bœuf sur le toit. 1920. Je rentre en France, dans les bars d'après l'armistice. Le jazz a des accents si sublimes, si déchirants que tous, nous comprenons qu'à notre manière de sentir, il faut une forme nouvelle. Mais le fond. Tôt ou tard, me disais-je, nous devrons répondre à cet appel des ténèbres. Aller voir ce qu'il y a derrière cette impérieuse mélancolie qui sort des saxophones. Comment rester sur place, tandis que le temps glacé fond entre nos mains chaudes? En route.
Le contexte qu'on avait entendu était l'avant-propos à Magie Noire. En définitive, Paul Morand a, semble-t-il, décidé de propos délibérés, d'aller voir, d'aller entendre, d'aller découvrir, à la fois en Amérique, aux Antilles, en Afrique, ce qu'étaient les racines de cet art nègre qui commençait à arriver sur l'Europe. Il avait d'ailleurs, quand il dit qu'il cherche, il a l'impression qu'il y a là une forme nouvelle et où est le fond, il a vraiment là des préoccupations qui sont des préoccupations à la fois musicales et littéraires aussi.
Tout à fait, c'était l'époque, n'est-ce pas, de la découverte après Apollinaire des statuettes africaines et puis du jazz, donc Cocteau dit qu'il l'a rapporté lui-même d'un les Billy Arnold, qu'il rapportait de la Dancing de Londres. Et Morand nous raconte qu'à Londres, quand il était attaché d'ambassade, il avait fait mettre des rideaux dans sa chambre qui étaient à grands losanges orange et noir et marron. Et Paul Cambon, qui était son ambassadeur, l'appelait mon attaché cubiste. Et il a tout de suite eu, en effet, ce goût de l'art nègre et de tout ce qu'il y avait d'exotique et de possibilités que Millot aussi amenait du côté sud-américain à la même époque avec le Bœuf sur le toit. Mais quand j'écoutais le temps chaud au fond entre nos mains glacées.
Le temps glacé fond entre nos mains chaudes,
oui, c'est plus juste. Ça me faisait penser à ce que dit Cocteau à un moment de Morand au Bœuf sur le toit. Cocteau raconte que Morand prenait la neige sur les rebords des fenêtres et s'en servait comme glace pour faire les cocktails. Enfin. Et c'est exactement la même image qu'on retrouvait.
Je vais goûter les bienfaits de la stabilité. Que j'en ai vu de cœurs intermittents, de géographies élastiques, de situations fluides, de fortunes fondantes, de mœurs chancelantes, de monnaies à éclipse, de vérités contradictoires, toutes définitives. Notre âge est l'art des farces et attrapes du destin. Il est blasé sur l'inattendu. Je m'habitue mal à des rapports humains de plus en plus inharmoniques et contentieux, à travers des dialogues qui ne sont plus que deux monologues, où la logique et l'irrationnel, où Descartes et Lautréamont nous sollicitent en même temps. On nous fait cadeau de la vitesse, laquelle engendre le surplace. Les voitures deviennent des maisons et les maisons des caravanes. Le bout du monde n'existe pas plus que le bout de nos embarras. Le lendemain n'est jamais celui que l'on attendait.
Brahma voit le monde en une fois. Neutralité absolue. Celle des moines, celle du diable, celle des oiseaux. Suspendu au-dessus des fortifications et des frontières, je prends une récréation universelle. Aucun chronomètre, cadran, réveil matin, coucou, montre, pendule, ne peut sonner ce temps total. Je réquisitionne d'un coup la succession et l'ordre. J'exige d'un coup ces plaisirs que les livres, ces promesses que les agences nous offrent, séparés. Je laisse aux hommes le mirage des systèmes réguliers, des minutes en fil, des secondes à la queue leu-leu. Je vois le monde en une fois. En une fois, je le crée et je l'anéantis. Toute la ville basse se lève, escarpée, résonne d'escomptes, de fer et d'inventaire. Tandis que la ville haute, inhabitée, baisse et se vide. Les plus riches ont l'air de domestiques. Le monde est avide, car il fait froid et bientôt va venir la fin. Je quitte New York, aux dents longues, pour Paris, repu, car au même instant, il est 15h15. Rue de la Paix, Paris la Violette, Paris la Fourrure. Au soleil d'hiver se chauffent des gens qui comprennent tout et rien, tout de tout, rien du tout. 16h15, le crépuscule déjà tombe sur Berlin, qui se débarbouille de lumière et qui fait des libations électriques devant les cinémas où s'engouffrent des révolutions pacifiques. Il est en ce moment 17h15 à Louxor. Voyez les chèvres qui broutent le retama et dont le lait enivre. Louxor, flamant rose, flambant et violet. Et son désert qui noircit jusqu'à n'être plus qu'une croûte.
Bernard Delvaille, lorsque l'on entend ce poème de Paul-Morand Brahma, l'heure vraie, lorsque on voit aussi cet autre poème que vous aimez beaucoup, Budapest, on a l'impression que Morin était très fasciné par une sorte de simultanéité, des heures, des situations, des hommes, tout autour du monde.
Il avait certainement cette fascination qui était propre à certains écrivains de ses contemporains, je pense à Dos Passos par exemple, et à Manhattan Transfer. Mais il y avait aussi, au-delà de cette agitation à laquelle il aimait participer, il y avait un certain sens de la méditation et de la retraite et du silence. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il aimait le voyage en avion, qui est un voyage clos, où on ne participe pas à ce qui se passe autour, puisqu'il ne se passe rien, n'est-ce pas ? Alors qu'en bateau ou en train, on est obligé de participer au paysage qui se déroule sous vos yeux. En avion, il ne se passe rien. Et il y avait chez Morand parfois tout de même un côté, je dirais, à la limite mystique, mais d'un mysticisme peut-être plus proche du mysticisme chinois que du mysticisme gréco-romain ou judaïque, enfin.
Et dans ce poème Budapest, Il raconte.
Alors ce poème Budapest est un poème que je trouve le meilleur poème de Morand. Morand avait une maison aux confins de l'Eure-et-Loire et de l'Oise, je crois, ou de la Seine inférieure, de la Seine maritime maintenant. Et il est au milieu de la nuit et il entend à la fois tout le silence de la campagne normande qui l'entoure et en même temps par les postes d'Ebonite, les postes de TSF, n'est-ce pas, et avec des écouteurs qu'on se mettait aux oreilles, il entend toutes les radios avec la diversité des fuseaux horaires, toutes les radios européennes qui montent à ses oreilles.
Il est le
centre du monde.
Il raconte d'ailleurs qu'il entend la Tour Eiffel, donc la radio française.
Il entend la Tour Eiffel, il entend Rome, il entend Radio Budapest, il entend Hilversum, il entend Stockholm, il entend Londres, enfin il entend une fois de plus les derniers orchestres de la nuit qui s'éteignent petit à petit dans la nuit intereuropéenne qui s'apaise, dit-il, n'est-ce pas ? C'est donc une fois de plus l'impression d'une Europe qui... Il entend l'Europe se clore, se terminer et s'apaiser, enfin, et mourir.
On revient là à une note d'ailleurs très pessimiste sur cet aspect pessimiste de Paul Morand.
Je crois que c'était quelqu'un de profondément pessimiste, n'est-ce pas, comme tous ceux qui aiment la vie. Il parle de cet accident que fut ma vie.
Comment donc peut-il être à la fois 10h45, 15h15, 16h15, 17h15, 20h45, 0h15, 0h45 et 4h45? Comment se présentent en même temps New York, Paris, Berlin, Luxor, Bombay, Yokohama, Adélaïde et Honolulu? Et dans ces villes, des hommes et des femmes, en même temps différents de pigmentation et de gestes, et en même temps des cercueils qu'on cloue, et des têtes d'enfants qui apparaissent, et des dents noires, des dents blanches, sciées, limées, dorées. Tout cela tourne sans se rencontrer jamais. Et des aurores, et des crépuscules, et des roses, et des bleus, et des nuits et des jours, de la pluie, de la poussière, de l'herbe et du sable, des bananes et des ours blancs, de la peau boucanée et de la peau fourrée. L'Église catholique, par ses voix universelles, chante à la fois matine et laude, vêpres et complies. Des temples et des synagogues se juxtaposent, se réalisent sans se deviner. Des climats juteux, des séances de prestidigitateurs, Monsieur Briand est le grand chef des Indiens Hopi. Les fabriques en boutire de Cleveland et la comédie française règnent sur des univers clos, sans se douter qu'ils coexistent. Moi, je les contracte. Je les fais craquer jusqu'à l'unité. Je romps la séquence. Je les regarde sans vertige. Pas d'équation, de lunettes, ni de moyenne. Je suis leur vrai. Je suis Brahma, la forme de tout. Je les pense ensemble. J'inspire. J'expire. Oh.